Chapitre 2. La pièce sociale était double. Celle que jouaient les intellectuels était la comédie dans la comédie. Le peuple ne l'écoutait guère. La vraie pièce était la sienne. Il n'était pas facile de la suivre. Lui-même n'arrivait pas très bien à s'y reconnaître. Elle n'en avait que plus d'imprévus. Ce n'était pas qu'on y parlât beaucoup plus qu'on agissait. Bourgeois ou peuple, tout Français est gros mangeur de paroles autant que de pain. Mais tous ne mangent pas le même pain. Il y a une parole de luxe pour les palais délicats et une plus nourrissante pour les gueules affamées. Si les mots sont les mêmes, ils ne sont pas pétris de la même façon. La saveur et l'odeur, le sens est différent. La première fois qu'Olivier, assistant à une réunion populaire, goûta de ce pain-là, il manqua d'appétit. Les morceaux lui restèrent dans la gorge. Il était écœuré par la platitude des pensées, la lourdeur incolore et barbare de l'expression, les généralités vagues, la logique enfantine, cette mayonnaise mal battue d'abstractions et de faits sans liaison. L'impropriété du langage n'était pas compensée par la verve du parler populaire. C'était un vocabulaire de journal, des nippes défraîchies, ramassées au décrochez-moi ça de la rhétorique bourgeoise. Olivier s'étonnait surtout du manque de simplicité. Il oubliait que la simplicité littéraire n'est pas naturelle, mais acquise. Conquête d'une élite. Le peuple des villes ne peut pas être simple. Il va toujours chercher, de préférence, les expressions alambiquées. Olivier ne comprenait pas l'action que ces phrases empoulées pouvaient avoir sur l'auditoire. Il n'en possédait pas la clé. On nomme langues étrangères celles d'une autre race. Mais dans une même race, il y a presque autant de langues que de milieux sociaux. Ce n'est que pour une élite restreinte que les mots sont les voies de l'expérience des siècles. Pour les autres, ils ne représentent que leurs propres expériences et celles de leur groupe. Tels de ces mots pour l'élite et méprisés par elle sont comme une maison vide, où, depuis son départ, se sont installées des énergies nouvelles. Si vous voulez connaître l'hôte, entrez dans la maison. C'est ce que fit Christophe. Il fut mis en rapport avec les ouvriers par un voisin employé au chemin de fer de l'État. Homme de 45 ans, petit, vieilli avant l'âge, le crâne tristement déplumé, les yeux enfoncés dans l'orbite, les joues creuses, le nez proéminent, gros et recourbé, la bouche intelligente, les oreilles déformées au lobe cassé, des traits dégénérés. Il se nommait Alcide Gautier. Il n'était pas du peuple, mais de la moyenne bourgeoisie, d'une bonne famille, qui avait dépensé à l'éducation du fils unique tout son petit avoir, et qui même n'avait pu, faute de ressources, lui permettre de la poursuivre jusqu'au bout. Très jeune, il avait obtenu dans une administration de l'État un de ces postes qui semblent à la bourgeoisie pauvre le porc, et qui sont morts la mort vivante. Une fois entré là, il n'avait plus eu la possibilité d'en sortir. Il avait commis la faute, c'en est une dans la société moderne, de faire un mariage d'amour avec une jolie ouvrière, dont la vulgarité foncière n'avait pas tardé à s'épanouir. Elle lui avait donné 3 enfants. Il fallait faire vivre ce monde. Cet homme, qui était intelligent et qui aspirait de toutes ses forces à compléter son instruction, se trouvait ligoté par la misère. Il sentait en lui des puissances latentes que les difficultés de sa vie étouffaient. Il ne pouvait en prendre son parti. Il n'était jamais seul. Employé à la comptabilité, il passait ses journées à des besognes mécaniques dans une pièce qui lui était commune avec d'autres collègues, vulgaires et bavards. Il parlait de choses ineptes, se vengeait de l'absurdité de leur existence en médisant des chefs, et se moquait de lui à cause de ses visées intellectuelles qu'il n'avait pas eu la sagesse de leur cacher. Quand il rentrait chez lui, il trouvait un logis sans grâce et malodorant, une femme bruyante et commune qui ne le comprenait pas, qui le traitait de feignant ou de fou. Ses enfants ne lui ressemblaient à rien, ressemblaient à la mère. Était-ce juste tout cela? Était-ce juste? Tant de déboires, de souffrances, la gêne perpétuelle, le métier desséchant qui le tenait du matin au soir, l'impossibilité de trouver jamais une heure de recueillement, une heure de silence, l'avait jeté dans un état d'épuisement et d'irritation neurasthénique. Pour oublier, il recourait depuis peu à la boisson qui achevait de le détruire. Christophe fut frappé du tragique de cette destinée. Une nature incomplète, sans culture suffisante et sans goût artistique, mais faite pour de grandes choses, et que la malchance écrasait. Gautier s'accrocha aussitôt à Christophe, ainsi que font les faibles qui se noient quand leur main rencontre le bras d'un bon nageur. Il avait pour Christophe un mélange de sympathie et d'envie. Il l'entraîna dans des réunions populaires et lui fit voir quelques chefs des partis révolutionnaires auxquels il ne s'unissait que par rancune contre la société, car il était un aristocrate manqué. Il souffrait amèrement d'être mêlé au peuple. Christophe, beaucoup plus peuple que lui, d'autant plus qu'il n'était pas forcé de l'être, prit plaisir à ses meetings. Les discours l'amusaient. Il ne partageait pas les répugnances d'Olivier. Il était peu sensible aux ridicules du langage. Pour lui, un bavard en valait un autre. Il affectait un mépris général de l'éloquence. Mais sans se donner la peine de bien comprendre cette rhétorique, il en ressentait la musique au travers de celui qui parlait et de ceux qui écoutaient. Le pouvoir de celui-là se centuplait de ses résonances dans ceci. D'abord, Christophe ne prit garde qu'au premier. Il eut la curiosité de connaître quelques-uns des parleurs. Celui qui avait eu le plus d'action sur la foule était Casimir Joussier, un petit homme brun et blême, de 30 à 35 ans, figure de Mongol, maigre, souffreteux, les yeux ardents et froids, les cheveux rares, la barbe en pointe. Son pouvoir tenait moins à sa mimique, pauvre, saccadé, rarement d'accord avec la parole, il tenait moins à sa parole, rauque, sifflante, avec des aspirations emphatiques, qu'à sa personne même, à la violence de certitude qui en émanait. Il ne semblait pas permettre qu'on pût penser autrement que lui, et comme ce qu'il pensait était ce que son public désirait penser, il n'avait pas de difficulté à s'entendre. Il leur répétait 3 fois, 4 fois, 10 fois les choses qu'ils attendaient. Il ne se lassait pas de frapper sur le même clou avec une ténacité enragée, et tout son public frappait, frappait, entraîné par l'exemple, frappait jusqu'à ce que le clou s'incrustât dans la chair. À cette emprise personnelle s'ajoutait la confiance qu'inspirait son passé, le prestige de multiples condamnations politiques. Il respirait une énergie indomptable, mais qui savait regarder démêlait au fond une lourde fatigue accumulée, le dégoût de tant d'efforts et une colère contre sa destinée. Il était de ces hommes qui dépensent chaque jour plus que leur revenu de vie. Depuis l'enfance, il s'usait au travail et à la misère. Il avait fait tous les métiers, ouvrier verrier, plombier, typographe. Sa santé était ruinée, la phtisie le minait. Elle le faisait tomber dans des accès de découragement amer, de sombre désespoir pour sa cause et pour lui. D'autres fois, elle l'exaltait. Il était un composé de violences calculées et de violences maladives, de politique et d'emportement. Il s'était instruit tant bien que mal. Il savait très bien certaines choses, de science, de sociologie, de ses divers métiers. Il savait très mal beaucoup d'autres, et il était aussi sûr des unes que des autres. Il avait des utopies, des idées justes, des ignorances, un esprit pratique, des préjugés, de l'expérience, une haine soupçonneuse pour la société bourgeoise. Cela ne l'empêcha point d'accueillir bien Christophe. Son orgueil était flatté de se voir recherché par un artiste connu. Il était de la race des chefs, et quoi qu'il fît, cassant pour les ouvriers. Bien qu'il voulût de bonne foi l'égalité parfaite, il la réalisait plus facilement avec ceux qui étaient au-dessus de lui qu'avec ceux qui étaient au-dessous. Christophe rencontra d'autres chefs du mouvement ouvrier. Il n'y avait pas grande sympathie entre eux. Si la lutte commune faisait difficilement l'unité d'action, elle était loin de faire l'unité de cœur. On voyait à quelle réalité toute extérieure et transitoire correspondait la distinction de classe. Les vieux antagonismes étaient seulement ajournés et masqués, mais ils subsistaient tous. On retrouvait là les hommes du Nord et ceux du Midi, avec leur dédain foncier les uns pour les autres. Les métiers jalousaient mutuellement leur salaire et se regardaient entre eux avec le sentiment non déguisé, chacun, qu'il était supérieur aux autres. Mais la grande différence était, sera toujours, celle des tempéraments. Les renards et les loups, le bétail cornu, des bêtes aux dents aiguës, et celles aux 4 estomacs, celles qui sont faites pour manger et celles qui sont faites pour être mangées, se flairaient en passant dans le troupeau que le hasard de classe et l'intérêt commun avaient groupé. et ils se reconnaissaient, et leurs poils se hérissaient. Christophe prit quelquefois ses repas dans un petit restaurant crèmerie, tenu par un ancien collègue de Gauthier, Simon, employé des chemins de fer, révoqué pour fait de grève. La maison était fréquentée par des syndicalistes. Ils étaient 5 ou 6, dans une salle du fond qui donnait sur une cour intérieure, étroite et mal éclairée, d'où montait éperdument le chant intarissable de 2 canaries en cage vers la lumière. Joussier venait avec sa maîtresse, la belle Berthe, une fille robuste et coquette, teint pâle, casque pourpre, les yeux égarés et rieurs. Elle traînait à ses jupes un joli garçon, bellâtre, intelligent et poseur, Léopold de Graillot, ouvrier mécanicien, l'esthète de la bande. Tout en se disant anarchiste, et l'un des plus violents contre la bourgeoisie, il avait l'âme du pire bourgeois. Chaque matin, depuis des années, il absorbait les nouvelles érotiques et décadentes des journaux littéraires à 1 sou. Ses lectures lui avaient façonné une étrange caboche. Un raffinement cérébral dans ses imaginations du plaisir s'amalgamait chez lui à un manque absolu de délicatesse physique, à son indifférence à la propreté, à la grossièreté relative de sa vie. Il avait pris goût à ce petit verre d'alcool frelaté, alcool intellectuel du luxe, malsaines excitations des riches malsains. Ne pouvant avoir leur jouissance dans la peau, il se les inoculait dans le cerveau. Ça fait la bouche mauvaise, ça vous casse les jambes. Mais on est l'égal des riches, et on les hait. Christophe ne pouvait le souffrir. Il avait plus de sympathie pour Sébastien Coquart, un électricien qui était, avec Joussier, l'orateur le plus écouté. Celui-là ne s'encombrait pas de théorie. Il ne savait pas toujours où il allait, mais il y allait tout droit. Il était bien français. Un solide gaillard, d'une 40aine d'années, grosse figure colorée, la tête ronde, le poil roux, une barbe de fleuve, le cou et la voix de taureau. Excellent ouvrier, comme Joussier, mais aimant rire et boire. Le malingre Joussier regardait cette santé discrète avec des yeux d'envie. Et bien qu'ils fussent amis, une hostilité intime couvait entre eux. La patronne de la crèmerie, Aurélie, bonne femme de 45 ans, qui avait dû être belle, qu'il était encore malgré l'usure, s'asseyait auprès d'eux, un ouvrage à la main, les écoutait causer avec un sourire cordial, remuant les lèvres tandis qu'ils parlaient. Elle glissait à l'occasion son mot dans l'entretien et scandait la mesure de ses paroles avec sa tête en travaillant. Elle avait une fille mariée et 2 enfants de 7 à 10 ans, fillettes et garçons, qui faisaient leurs devoirs d'école sur le coin d'une table poissée, en tirant la langue et attrapant au passage des bribes de conversation qui n'étaient pas faites pour eux. Olivier essaya d'accompagner 2 ou 3 fois Christophe, mais il ne se sentait pas à l'aise parmi ces gens. Quand ses ouvriers n'étaient pas tenus par 1 heure stricte d'atelier, par un appel d'usine au sifflet tenace, on ne pouvait s'imaginer combien ils avaient de temps à perdre, soit après le travail, soit entre 2 travaux, soit flânerie, soit chômage. Christophe, qui se trouvait dans une de ces périodes de liberté désœuvrée, où l'esprit a terminé une œuvre et attend que s'en forme une nouvelle, n'était pas plus pressé qu'eux. Il restait volontiers, les coudes sur la table, à fumer, boire et causer. Mais Olivier était choqué dans ses instincts bourgeois, dans ses habitudes traditionnelles de discipline d'esprit, de régularité de travail, de temps scrupuleusement économisé, et il n'aimait pas à perdre ainsi tant d'heures. Au reste, il ne savait ni causer ni boire. Enfin, la gêne physique, l'antipathie secrète qui sépare les corps des races d'hommes différentes, l'hostilité de leurs sens qui s'oppose à la communion de leurs âmes, la chair qui se révolte contre le cœur. Quand Olivier était seul avec Christophe, il lui parlait tout ému du devoir de fraterniser avec le peuple. Mais quand il se trouvait en présence du peuple, il était incapable d'en rien faire. Au lieu que Christophe, qui se moquait de ses idées, était sans effort le frère du premier ouvrier rencontré dans la rue. Olivier avait un vrai chagrin de se sentir éloigné de ses âmes. Il tâchait d'être comme eux, de penser comme eux, de parler comme eux. Il ne le pouvait pas. Sa voix était sourde, voilée, ne sonnait pas comme la leur. Lorsqu'il essayait de prendre certaines de leurs expressions, les mots lui restaient dans la gorge ou détonnaient étrangement. Il s'observait, il se gênait, il les gênait. Et il le savait. Il savait qu'il était pour eux un étranger et un suspect, qu'aucun n'avait de sympathie pour lui, que lorsqu'il s'en allait, tout le monde faisait « ouf ». Il surprenait au passage des regards durs et glacés, de ces coups d'œil ennemis que jettent sur les bourgeois les ouvriers aigris par la misère. Christophe en avait peut-être sa part, mais il n'y voyait rien. De toute la compagnie, les seuls qui fussent disposés à se lier avec Olivier étaient les enfants d'Aurélie. Cela n'avait certes pas la haine du bourgeois. Le petit garçon était fasciné par la pensée bourgeoise. Il était assez intelligent pour l'aimer, pas assez pour la comprendre. La fillette, fort jolie, qu'Olivier avait conduite une fois chez Madame Arnaud, était hypnotisée par le luxe. Elle éprouvait un ravissement muet à s'asseoir dans le beau fauteuil, à toucher de belles robes. Elle avait un instinct de petite grue qui aspire à s'évader du peuple vers le paradis du confort bourgeois. Olivier ne se sentait nullement le goût de cultiver ses dispositions. Et ce naïf hommage rendu à sa classe ne le consolait pas de la sourde antipathie de ses autres compagnons. Il souffrait de leur malveillance. Il avait un désir si ardent de les comprendre. Et en vérité, il les comprenait trop bien, peut-être. Il les observait trop, et ils en étaient irrités. Il n'y apportait pas de curiosité indiscrète, mais son habitude d'analyse des âmes. Il ne tarda pas à voir le drame secret de la vie de Joussier, le mal qui le minait, et le jeu cruel de sa maîtresse. Elle l'aimait, elle était fière de lui, mais elle était trop vivante. Il savait qu'elle lui échapperait. Et il était dévoré de jalousie. Elle s'en amusait, elle agaçait les mâles, elle les enveloppait de ses œillades, de sa luxure. C'était une enragée frôleuse. Peut-être le trompait-elle avec Graillot, peut-être se plaisait-elle à le laisser croire. En tout cas, si ce n'était pour aujourd'hui, ce serait pour demain. Joussier n'osait lui interdire d'aimer qui lui plaisait. Ne professait-il pas, pour la femme, comme pour l'homme, le droit d'être libre? Elle le lui rappela avec une insolence narquoise un jour qu'il l'injuriait. Une lutte torturante se livrait en lui entre ses libres théories et ses instincts violents. Par le cœur, il était encore un homme d'autrefois, despotique et jaloux. Par la raison, un homme de l'avenir, un homme d'utopie. Elle était la femme d'hier, de demain, de toujours. Et Olivier, qui assistait à ce duel caché, dont il connaissait par expérience la férocité, était plein de pitié pour Joussier en voyant sa faiblesse. Mais Joussier devinait qu'Olivier lisait en lui, et il était loin de lui en savoir gré. Une autre suivait aussi ce jeu de l'amour et de haine d'un regard indulgent. La patronne, Aurélie. Elle voyait tout sans en avoir l'air. Elle connaissait la vie. Cette brave femme, saine, tranquille, rangée, avait mené une libre jeunesse. Fleuriste, elle avait eu un amant bourgeois. Elle en avait eu d'autres, puis elle s'était mariée avec un ouvrier. Elle était devenue une bonne mère de famille, mais elle comprenait toutes les sottises du cœur, aussi bien la jalousie de Joussier que cette jeunesse qui voulait s'amuser. En quelques mots affectueux, elle tâchait de les mettre d'accord. « Faut être conciliant, ça ne vaut pas la peine de se faire du mauvais sang pour si peu. » Elle ne s'étonnait pas que ce qu'elle disait ne servît à rien. « Ça ne sert jamais à rien, faut toujours qu'on se tourmente. » Elle avait la belle insouciance populaire sur qui les malheurs semblent glisser. Elle en avait eu sa part. 3 mois avant, elle avait perdu un garçon de 15 ans qu'elle aimait. Gros chagrin. À présent, elle était de nouveau active et riante. Elle disait « Si on se laissait aller à y penser, on ne pourrait pas vivre. » Et elle n'y pensait plus. Ce n'était pas égoïsme. Elle ne pouvait pas faire autrement. Sa vitalité était trop forte. Le présent l'absorbait. Impossible de s'attarder au passé. Elle s'accommodait de ce qui était, elle s'accommodait de ce qui serait. Si la révolution venait et mettait à l'endroit ce qui était à l'envers, et à l'envers ce qui était à l'endroit, elle saurait toujours se trouver sur ses pieds, elle ferait ce qu'il y aurait à faire, elle serait à sa place partout où elle serait placée. Au fond, elle n'avait dans la révolution qu'une croyance modérée. De foi, elle n'en avait guère en quoi que ce fût. Inutile d'ajouter qu'elle se faisait tirer les cartes dans les moments de perplexité et qu'elle ne manquait jamais de faire le signe de croix au passage d'un mort. Très libre et tolérante, elle avait le scepticisme sain du peuple de Paris qui doute, comme on respire, allègrement. Pour être la femme d'un révolutionnaire, elle n'en témoignait pas moins d'une maternelle ironie pour les idées de son homme et de son parti, et des autres partis, comme pour les bêtises de la jeunesse et de l'âge mûr. Elle ne s'émouvait pas de grand-chose. mais elle s'intéressait à tout. Elle était prête à la bonne comme à la mauvaise fortune. En somme, une optimiste. Pas se faire de bile. Tout s'arrangera toujours, pourvu qu'on se porte bien. Celle-là devait s'entendre avec Christophe. Il n'avait pas eu besoin de beaucoup de paroles pour voir qu'ils étaient de la même famille. De temps en temps, ils échangeaient un sourire de bonne humeur, tandis que les autres discouraient et criaient. Mais plus souvent, elle riait toute seule, en regardant Christophe qui se laissait à son tour entraîner dans ses discussions où il apportait plus de passion que tous les autres. Christophe ne remarquait pas l'isolement et la gêne d'Olivier. Il ne cherchait pas à lire ce qui se passait au fond des gens. Mais il buvait et mangeait avec eux, il riait et il se fâchait. Il ne se défiait pas de lui, quoiqu'ils se disputassent rudement. Il ne leur mâchait pas les mots. Dans le fond, il eût été embarrassé pour dire s'il était avec eux ou contre eux. Il ne se le demandait pas. Sans doute, si on l'eût forcé de choisir, il eût été syndicaliste contre le socialisme et toute la doctrine d'État. L'État, cette entité monstrueuse qui fabrique des fonctionnaires, des hommes-machines. Sa raison approuvait le puissant effort des groupements corporatifs dont la hache à double tranchant frappe à la fois l'abstraction morte de l'État socialiste et l'individualisme infécond, cet émiettement d'énergie, cette dispersion de la force publique en faiblesse particulière, la grande misère moderne dont la Révolution française est en partie responsable. Mais la nature est plus forte que la raison. Lorsque Christophe se trouvait en contact avec les syndicats, ces coalitions redoutables des faibles, son vigoureux individualisme se cabrait. Il ne pouvait s'empêcher de mépriser ces hommes qui avaient besoin de s'enchaîner ensemble pour marcher au combat. Et s'il admettait qu'ils se soumissent à cette loi, il déclarait qu'elle n'était pas pour lui. Ajoutez que si les faibles opprimés sont sympathiques, ils cessent de l'être quand ils deviennent oppresseurs. Christophe, qui criait naguère aux braves gens isolés « Unissez-vous », eut une sensation désagréable quand il se vit, pour la première fois, au milieu de ces unions de braves gens mêlés à d'autres, qui étaient moins braves, tous remplis de leurs droits, de leurs forces, et prêts à en abuser. Les meilleurs, ceux que Christophe aimait, les amis qu'il avait rencontrés dans la maison, à tous les étages, ne profitaient nullement de ces associations de bataille. Ils étaient trop délicats de cœur et trop timides pour ne pas s'en effaroucher. Ils étaient destinés à être, des premiers, écrasés par elles. Ils se trouvaient vis-à-vis du mouvement ouvrier dans la situation d'Olivier. Sa sympathie allait aux travailleurs qui s'organisent, mais il avait été élevé dans le culte de la liberté. Or, c'était ce dont les révolutionnaires se souciaient le moins. Qui, d'ailleurs, aujourd'hui se soucie de la liberté? Une élite sans action sur le monde. La liberté traverse des jours sombres. Les papes de Rome proscrivent la lumière de la raison. Les papes de Paris éteignent les lumières du ciel, et M. Pateau, celle des rues. Partout, l'impérialisme triomphe. Impérialisme théocratique de l'Église romaine, impérialisme militaire des monarchies mercantiles et mystiques, impérialisme bureaucratique des républiques capitalistes, impérialisme dictatorial des comités révolutionnaires. Pauvre liberté, tu n'es pas de ce monde. Les abus de pouvoir que les révolutionnaires prêchaient et pratiquaient révoltaient Christophe et Olivier. Ils n'avaient point d'estime pour les ouvriers jaunes qui refusent de souffrir pour la cause commune. Mais ils trouvaient odieux qu'on prétendît les y contraindre par la force. Cependant, il faut prendre parti. Dans la réalité, le choix n'est pas aujourd'hui entre un impérialisme et la liberté, mais entre un impérialisme et un impérialisme. Olivier disait « Ni l'un ni l'autre, je suis pour les opprimés ». Christophe ne haïssait pas moins la tyrannie des oppresseurs, mais il était entraîné dans le sillage de la force, à la suite de l'armée des travailleurs révoltés. Il ne s'en doutait guère. Il déclarait à ses compagnons de table qu'il n'était pas avec eux. « Tant qu'il ne s'agira pour vous, disait-il, que d'intérêts matériels, vous ne m'intéressez pas. Le jour où vous marcherez pour une fois, alors je serai les vôtres. Autrement, qu'ai-je à faire entre deux ventres? Je suis artiste, j'ai le devoir de défendre l'art, je ne dois pas l'enrôler au service d'un parti. Je sais qu'en ces derniers temps, des écrivains ambitieux, poussés par un désir de popularité malsaine, ont donné le mauvais exemple. Il ne me semble pas qu'ils aient beaucoup servi la cause qu'ils défendaient ainsi. Mais ils ont trahi l'art. Sauver la lumière de l'intelligence, c'est notre rôle à nous. qu'on n'aille pas la mêler à vos luttes aveugles. Qui tiendra la lumière si nous la laissons tomber? Vous serez bien aise de la retrouver intacte après la bataille. Il faut qu'il y ait toujours des travailleurs occupés à entretenir le feu de la machine tandis qu'on se bat sur le pont du navire. Tout comprendre, ne rien haïr. L'artiste est la boussole qui, pendant la tempête, marque toujours le nord. Il le traitait de phraseur, il disait qu'en fait de boussole, il avait perdu la sienne, et il se donnait le luxe de le mépriser amicalement. Pour eux, un artiste était un malin qui s'arrangeait de façon à travailler le moins et le plus agréablement possible. Il répondait qu'il travaillait autant qu'eux, qu'il travaillait plus qu'eux et qu'il avait moins peur du travail. Rien ne le dégoûtait autant que le sabotage, le gâchage du travail, la fainéantise érigée en principe. Tous ces pauvres gens, disait-il, qui craignent pour leur précieuse peau. Bon Dieu, moi, depuis l'âge de 10 ans, je travaille sans répit. Vous, vous n'aimez pas le travail. Vous êtes au fond des bourgeois. Si seulement vous étiez capable de détruire le vieux monde. Mais vous ne le pouvez pas. Vous ne le voulez même pas. Non, vous ne le voulez pas. Vous avez beau gueuler, menacer, faire celui qui va tout exterminer. Vous n'avez qu'une pensée, mettre la main dessus, vous coucher dans le lit tout chaud de la bourgeoisie. En dehors de quelques centaines de pauvres bougres de terrassiers qui sont toujours prêts à se faire crever la peau ou à crever celle des autres, sans savoir pourquoi, pour le plaisir, pour la peine séculaire, les autres ne pensent qu'à foutre le camp, à filer dans les rangs des bourgeois à la première occasion. Ils se font socialistes, journalistes, conférenciers, hommes de lettres, députés, ministres. Bah, ne criez pas contre celui-là. Vous ne valez pas mieux. C'est un traître, vous dites? Bon, à qui le tour? Vous y passerez tous. Pas un de vous qui résiste à l'appât. Comment le pourriez-vous? Il n'y a pas un de vous qui croit à l'âme immortelle. Vous êtes des ventres, je vous dis, des ventres vides qui ne pensent qu'à s'emplir. Là-dessus, il se fâchait et ils parlaient tous à la fois. Et tout en se disputant, il arrivait que Christophe, entraîné par sa passion, fût plus révolutionnaire que les autres. Il avait beau s'en défendre, son orgueil intellectuel, sa conception complaisante d'un monde purement esthétique, fait pour la joie de l'esprit, rentrait sous terre à la vue d'une injustice. Esthétique, un monde où 8 hommes sur 10 vivent dans le dénuement ou dans la gêne, dans la misère physique ou morale, allons donc. Il faut être un impudent privilégié pour le prétendre. Un artiste comme Christophe, en son fort intérieur, ne pouvait pas ne pas être du parti des travailleurs. Qui a, plus que le travailleur de l'esprit, à souffrir de l'immoralité des conditions sociales, de l'inégalité scandaleuse des fortunes? L'artiste meurt de faim ou devient millionnaire, sans autre raison que les caprices de la mode et de ceux qui spéculent sur elle. Une société qui laisse périr son élite ou qui la rémunère d'une façon extravagante est un monstre. Elle doit être détruite. Chaque homme, qu'il travaille ou non, a droit au pain quotidien. Chaque travail, qu'il soit bon ou médiocre, doit être rémunéré au taux non de sa valeur réelle, qui en est le juge infaillible, mais des besoins légitimes et normaux du travailleur. À l'artiste, au savant, à l'inventeur qui l'honore, la société peut et doit assurer une pension suffisante pour leur garantir le temps et les moyens de l'honorer davantage. Rien de plus. La Joconde ne vaut pas 1 million. Il n'y a aucun rapport entre une somme d'argent et une œuvre d'art. L'œuvre n'est pas au-dessus ni au-dessous. Elle est en dehors. Il ne s'agit pas de la payer. Il s'agit que l'artiste vive. Donnez-lui de quoi manger et travailler en paix. La richesse est le trop. C'est un vol qu'on fait aux autres. Il faut le dire crûment. Tout homme qui possède plus qu'il n'est nécessaire à sa vie, à la vie des siens et au développement normal de son intelligence, est un voleur. Ce qu'il a en plus, d'autres l'ont en moins. Nous sourions tristement quand nous entendons parler de la richesse inépuisable de la France, de l'abondance des fortunes. Nous, le peuple des travailleurs, ouvriers, intellectuels, hommes et femmes qui, depuis notre enfance, nous épuisons à la tâche pour gagner de quoi ne pas mourir de faim et qui souvent voyons les meilleurs succomber à la peine, nous qui sommes les forces vives de la nation. Mais vous qui êtes gorgés des richesses du monde, vous êtes riches de nos souffrances et de nos agonies. Cela ne vous trouble point. Vous ne manquerez jamais de sophismes qui vous rassurent. droit sacré de la propriété, saine guerre pour la vie, intérêt supérieur du progrès, ce monstre fabuleux, ce mieux problématique auquel on sacrifie le bien des autres. Il n'en reste pas moins ceci, que vous avez trop. Vous avez trop pour vivre. Nous n'avons pas assez, et nous valons mieux que vous. Si l'inégalité vous plaît, gare que demain elle ne se retourne contre vous. » Ainsi, les passions qui entouraient Christophe lui montaient à la tête. Ensuite, il s'étonnait de ses accès d'éloquence. Mais il n'y attachait pas d'importance. Il s'amusait de cette excitation qu'il attribuait à la bouteille. Il regrettait seulement que la bouteille ne fût pas meilleure, et il vantait ses vins du Rhin. Il continuait de se croire détaché des idées révolutionnaires. Mais il se produisait ce phénomène singulier que Christophe apportait à les discuter une passion croissante, tandis que celle de ses compagnons semblait, par comparaison, décroître. Ils avaient moins d'illusions que lui. Même les meneurs violents, ceux qui étaient redoutés par la bourgeoisie, étaient incertains au fond et diablement bourgeois. Coquart, avec son rire d'étalon qui hennit, faisait la grosse voix et des gestes terribles, mais il ne croyait qu'à demi ce qu'il vociférait. Il était un hâbleur de la violence. Il perçait à jour la lâcheté bourgeoise, et il jouait à la terroriser en se montrant plus fort qu'il n'était. Il ne faisait pas de difficulté pour en convenir, en riant avec Christophe. Graillot critiquait tout ce qu'on voulait faire. Il faisait tout avorter. Joussier affirmait toujours, il ne voulait jamais avoir tort. Il voyait très bien le vice de son argumentation. Il ne s'en obstinait que davantage. Il eût sacrifié la victoire de sa cause à l'orgueil de ses principes. Mais il passait d'accès de foi têtu à des accès de pessimisme ironique, où il jugeait amèrement le mensonge des idéologies et l'inutilité de tous les efforts. La plupart des ouvriers étaient de même. Ils tombaient, en un moment, de la soûlerie des paroles au découragement. Ils avaient des illusions immenses, mais elles ne reposaient sur rien. Ils ne les avaient pas conquises et créées eux-mêmes. Ils les avaient reçues toutes faites par cette loi du moindre effort qui les menait dans leur distraction à l'assommoir et au beuglant. Paresse de pensée incurable, qui n'avait que trop d'excuses. C'est la bête harassée qui ne demande qu'à se coucher et ruminer en paix sa pâture, ses rêves. Mais ces rêves cuvés, il n'en restait plus rien qu'une lassitude pire et la gueule de bois. Sans cesse, il s'enflammait pour un chef, et peu de temps après, le soupçonnait, le rejetait. Le plus triste était qu'il n'avait point tort. Les chefs étaient attirés, l'un après l'autre, par l'appât du succès, de la richesse, de la vanité. Pour un joussier que préservait de la tentation la phtisie qui le minait, la mort à brève échéance, que d'autres trahissaient ou se laissaient. Ils étaient victimes de la plaie qui rongeait alors les hommes politiques de tous les partis, la démoralisation par la femme ou par l'argent. Les deux fléaux n'en font qu'un. On voyait dans le gouvernement comme dans l'opposition des talents de premier ordre, des hommes qui avaient l'étoffe de grands hommes d'État. En d'autres temps, ils l'eussent été peut-être, mais ils étaient sans foi, sans caractère. Le besoin, l'habitude, la lassitude de la jouissance les avaient énervés. Elle leur faisait commettre, au milieu de vastes projets, des actes incohérents où brusquement tout jetait là, les affaires en cours, leur patrie ou leur cause, pour se reposer et jouir. Ils étaient assez braves pour se faire tuer dans une bataille, mais bien peu de ces chefs eussent été capables de mourir à la tâche, sans vaine forfanterie, immobiles à leur poste, le poing au gouvernail. La conscience de cette faiblesse foncière coupait les jarrets à la révolution. Ces ouvriers passaient leur temps à s'accuser mutuellement. Leur grève échouait toujours par les dissentiments perpétuels entre les chefs ou entre les corps de métier, entre les réformistes et les révolutionnaires, par la timidité profonde sous les menaces fanfaronnes, par l'hérédité moutonnière qui, à la première sommation légale, faisait rentrer sous le joug ces révoltés, par le lâche égoïsme et la bassesse de ceux qui profitaient de la révolte des autres pour se pousser auprès des maîtres en faisant payer cher leur fidélité intéressée. Sans parler du désordre inhérent aux foules, de leur esprit anarchique. Ils voulaient bien faire des grèves corporatives qui eussent un caractère révolutionnaire, mais ils ne voulaient pas qu'on les traitât en révolutionnaires. Ils n'avaient aucun goût pour les baïonnettes. Ils eussent voulu battre l'omelette sans casser d'œufs. En tout cas, ils aimaient mieux que les œufs cassés fussent ceux du voisin. Olivier regardait, observait, et il ne s'étonnait point. Il avait reconnu combien ces hommes étaient inférieurs à l'œuvre qu'ils prétendaient réaliser. Mais il avait aussi reconnu la force fatale qui les entraînait. Et il s'apercevait que Christophe, à son insu, suivait le fil de l'eau. Pour lui, qui n'eût demandé qu'à se laisser emporter, le courant ne voulait pas de lui. Il restait au rivage et regardait l'eau passer. C'était un fort courant. Il soulevait une masse énorme de passion, d'intérêt et de foi, qui se heurtait, se fondait avec des bouillonnements d'écume et des remous contradictoires. Les chefs étaient en tête, les moins libres de tous, car ils étaient poussés, et peut-être de tous, ceux qui croyaient le moins. Ils avaient cru jadis, ils étaient comme ces prêtres qu'ils avaient tant raillés, enfermés dans leurs vœux, dans la foi qu'ils avaient eue et qu'ils étaient forcés de professer jusqu'à la fin. Derrière eux, le gros du troupeau était brutal, incertain et de vue courte. Le plus grand nombre croyait par hasard parce que le courant allait maintenant à ses utopies. Ils n'y croiraient plus ce soir parce que le courant aurait changé. Beaucoup croyaient par besoin d'action, par désir d'aventure. D'autres par logique raisonneuse, dénuée de sens commun. Quelques-uns par bonté. Les avisés ne se servaient des idées que comme d'armes pour la bataille. Ils luttaient pour un salaire précis, pour un nombre réduit d'heures de travail. Les forts appétits couvaient l'espoir secret de revanche grossière d'une vie misérable. Mais le courant qui les portait était plus sage que tous. Il savait où il allait. Qu'importait qu'il dût momentanément se briser contre la digue du vieux monde. Olivier prévoyait que la révolution sociale serait aujourd'hui écrasée. Mais il savait aussi qu'elle n'atteindrait pas moins ses fins par la défaite que par la victoire. Car les oppresseurs ne font droit aux demandes des opprimés que lorsque ces opprimés leur font peur. Ainsi, l'injuste violence des révolutionnaires ne servait pas moins leur cause que la justice de leur cause. L'une et l'autre faisaient partie du plan de la force aveugle et sûre qui mène le troupeau humain. Considérez ce que vous êtes, vous que le maître a appelé. Selon la chair, il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages, ni beaucoup de forts, ni beaucoup de nobles. Mais il a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages, et il a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Et il a choisi les choses viles de ce monde et les choses méprisées et celles qui ne sont point pour abolir celles qui sont. Cependant, quel que fût le maître qui gouvernait les choses, raison ou déraison, et bien que l'organisation sociale préparée par le syndicalisme constituât pour l'avenir un progrès relatif, Olivier ne pensait pas qu'il valût la peine, pour Christophe et pour lui, d'absorber toute leur force d'illusion et de sacrifice dans ce combat terre à terre qui n'ouvrirait pas un monde nouveau. Son espoir mystique de la révolution était déçu. Le peuple n'était pas meilleur et guère plus sincère que les autres classes. Surtout, il n'était pas assez différent. Au milieu du torrent des intérêts et des passions boueuses, le regard et le cœur d'Olivier étaient attirés par des îlots indépendants, les petits groupes de vrais croyants qui émergeaient çà et là comme des fleurs sur l'eau. L'élite a beau vouloir se mêler à la foule, elle va toujours à l'élite, l'élite de toutes les classes et de tous les partis, ceux qui portent le feu. Et son devoir sacré, c'est de veiller à ce que le feu ne s'éteigne point. Olivier avait déjà fait son choix. À quelques maisons de la sienne était une échoppe de savetiers, un peu en contrebas de la rue. Quelques planches clouées ensemble, avec des vitres et des carreaux de papier. On y descendait par trois marches, et il fallait baisser le dos pour s'y tenir debout. Il y avait juste la place pour un rayon de savate et deux escabeaux. Tout le jour, on entendait, selon la tradition du savetier classique, le maître de séance chanter. Il sifflait, tapait ses semelles, braillait d'une voix enrouée des gaudrioles et des chansons révolutionnaires, ou interpellait à travers son bocal les voisines qui passaient. Une pie à l'aile cassée, qui se promenait sur le trottoir en sautillant, venait d'une loge de concierge lui rendre visite. Elle se posait sur la première marche, à l'entrée de l'échoppe, et regardait le savetier. Il s'interrompait un moment pour lui dire des grivoiseries, d'un ton flûté, ou il lui sifflait l'international. Elle restait, le bec levé, écoutant gravement. De temps en temps, elle faisait un plongeon, le bec en avant comme pour saluer. Elle battait gauchement des ailes pour retrouver son équilibre. Puis elle virait soudain, plantant là son interlocuteur au milieu d'une phrase, et d'une aile et d'un aileron s'envolait sur le dossier d'un banc, d'où elle narguait les chiens du quartier. Alors le gnaf se remettait à battre ses empeignes, et la fuite de son auditrice ne l'empêchait pas de continuer jusqu'au bout le discours interrompu. Il avait 56 ans, l'air jovial et bourru, de petits yeux rieurs sous d'énormes sourcils, le crâne chauve au sommet, qui s'élevait comme un œuf au-dessus d'un nid de cheveux, des oreilles poilues, une gueule noire et brèche-dents, qui s'ouvrait comme un puits dans des accès de rire, une barbe hirsute et malpropre, où il fourrageait à pleines mains de ses pinces volumineuses et noires de cirage. Il était connu dans le quartier sous le nom de Père Feuillet, dit Feuillette, dit Papa Lafayette, on disait Lafayette pour le faire enrager, car le vieux, en politique, arborait des opinions écarlates. Tout jeune, il avait été mêlé à la commune, condamné à mort, finalement déporté. Il était fier de ses souvenirs et associait dans ses rancunes badinguait, galifet et foutriquet. Il était assidu au meeting révolutionnaire et enthousiaste de coqueur pour l'idéal vengeur que celui-ci prophétisait avec une si belle barbe et une voix de tonnerre. Il ne manquait pas un de ses discours. Il buvait ses paroles, riait de ses plaisanteries à mâchoire déployée, écumait de ses invectives, jubilait des combats et du paradis promis. Le lendemain, à l'échoppe, il relisait dans son journal le résumé des discours. Il le relisait tout haut, pour lui et pour son apprenti. Afin de mieux le savourer, il se le faisait lire et calotait l'apprenti quand il sautait une ligne. Aussi n'était-il pas souvent exact à livrer l'ouvrage aux dates promises. En revanche, c'était de l'ouvrage solide. Il usait les pieds, mais il était inusable. Le vieux avait avec lui un petit-fils de 13 ans, bossu, malingre et rachitique, qui lui servait d'apprenti. La mère, à 17 ans, avait fui sa famille pour filer avec un mauvais ouvrier, devenu apache, qui ne tarda pas à être pris, condamné et disparu. Restée seule avec l'enfant, rejetée par les siens, elle éleva le petit Emmanuel. Elle avait reporté sur lui l'amour et la haine qu'elle avait eus pour son amant. C'était une femme d'un caractère violent, maladivement jaloux. Elle aimait son enfant avec emportement, le malmenait brutalement, puis, quand il était malade, elle était folle de désespoir. Dans ses jours de mauvaise humeur, elle le couchait sans dîner, sans un morceau de pain. Quand elle le traînait par la main dans les rues, s'il était fatigué, s'il ne pouvait plus avancer et se laissait choir par terre, elle le relevait d'un coup de pied. Elle avait un langage incohérent et passait des larmes à une excitation de gaieté hystérique. Elle était morte. Le grand-père avait recueilli le petit, alors âgé de 6 ans. Il l'aimait bien, mais il avait sa manière de le lui témoigner. Elle consistait à rudoyer l'enfant, à le nommer d'injures variées, à lui allonger les oreilles, à le claquer du matin au soir afin de lui apprendre son métier. Et il lui inculquait en même temps son catéchisme social et anticlérical. Emmanuel savait que le grand-père n'était pas méchant, mais il était toujours prêt à lever le coude pour parer les gifles. Le vieux lui faisait peur, surtout les soirs de ribote. Car le père Lafayette n'avait pas volé son surnom. Il se pochardait 2 ou 3 fois par mois. Alors il parlait à tort et à travers, il riait, il faisait le faro, et cela finissait par quelques bourrades petits. Plus de bruit que de mal, mais l'enfant était craintif. Son état souffreteux le rendait plus sensible. Il avait une intelligence précoce et tenait de sa mère un cœur farouche et déréglé. Il était bouleversé par les brutalités du grand-père comme par ses déclamations révolutionnaires. Tout résonnait en lui des impressions du dehors, comme l'échoppe qui tremblait au passage des lourds omnibus. Dans son imagination affolée, se mêlaient en des vibrations de clocher ses sensations journalières, ses grandes douleurs d'enfant, les lamentables souvenirs d'une expérience prématurée, les récits de la commune, des bribes de cours du soir, de feuilletons de journaux, de discours de meeting, et les instincts sexuels, troubles et torrentueux, qui lui venaient des siens. Le tout formait ensemble un monde de rêves monstrueux, marécages dans la nuit, d'où se détachaient des jets d'espoir éblouissants. Le savetier traînait son apprenti au cabaret, chez Aurélie. Ce fut là qu'Olivier remarqua le petit bossu qui avait une voix d'hirondelle. Parmi ses ouvriers avec qui il ne causait guère, Il avait eu tout le temps d'étudier la figure maladive de l'enfant, au front proéminent, son air sauvage et humilié. Il avait assisté aux grossièretés joviales qu'on lui disait, et dont les traits du petit se crispaient en silence. Il avait vu, à certaines palabres révolutionnaires, ses yeux de velours marron rayonner de l'extase chimérique du bonheur futur. Ce bonheur qui, même s'il devait se réaliser jamais, ne changerait pas grand-chose à sa chétive destinée. À ces instants, son regard illuminait son visage ingrat, le faisait oublier. La belle Berthe elle-même en fut frappée. Un jour, elle le lui dit, et sans crier gare, le baisa sur la bouche. L'enfant sursauta, pâlit de saisissement et se rejeta en arrière avec dégoût. Elle était déjà occupée à se quereller avec Joussier. Seul, Olivier s'aperçut du trouble d'Emmanuel. Il suivait des yeux le petit, qui s'était reculé dans l'ombre, les mains tremblantes, le front baissé, regardant en dessous, jetant de côté sur la fille des coups d'œil ardents et irrités. Il se rapprocha de lui, il lui parla doucement, poliment, l'apprivoisa. Quel bien peut faire la douceur de manière à un cœur sevré d'égards. C'est une goutte d'eau qu'une terre aride boit avidement. Il ne fallut que quelques mots, un sourire, pour que, dans le secret de son cœur, le petit Emmanuel se donna à Olivier et décida qu'Olivier était à lui. Après, quand il le rencontra dans la rue et découvrit qu'ils étaient voisins, ce lui fut un signe mystérieux du destin qu'il ne s'était pas trompé. Il guettait le passage d'Olivier devant l'échoppe pour lui adresser le bonjour, et s'il arrivait qu'Olivier, distrait, ne regardât pas de son côté, Emmanuel en était froissé. Il eut un grand bonheur le jour qu'Olivier entra chez le père Feuillette pour une commande. L'ouvrage terminé, Emmanuel le porta chez Olivier. Il avait guetté son retour à la maison afin d'être sûr de le trouver. Olivier, absorbé, fit peu d'attention à lui, paya, ne disait rien. L'enfant semblait attendre, regardait à droite, à gauche, s'en allait à regret. Olivier, avec sa bonté, devina ce qui se passait en lui. Il sourit et essaya de lier conversation, malgré la gêne qu'il avait toujours à causer avec quelqu'un du peuple. Cette fois, il sut trouver les mots simples et directs. Une intuition de souffrance lui faisait voir dans l'enfant, d'une façon trop simpliste, un petit oiseau blessé par la vie, comme lui, et qui se consolait, la tête sous son aile, recroquevillé en boule sur son perchoir, en rêvant de vol fou dans la lumière. Un sentiment analogue de confiance instinctive rapprochait de lui l'enfant. Il subissait l'attraction de cette âme silencieuse qui ne criait point, qui ne disait point de paroles rudes, où l'on était à l'abri des brutalités de la rue. Et la chambre, peuplée de livres, paroles magiques des siècles, lui inspirait un respect religieux. Aux questions d'Olivier, il répondait volontiers, avec de brusques sursauts de sauvagerie orgueilleuse. Mais l'expression lui manquait. Olivier démaillotait avec précaution cette âme obscure et bégayante. Il arrivait à y lire peu à peu sa foi ridicule et touchante dans le renouvellement du monde. Il n'avait pas envie d'en rire, sachant qu'elle rêvait de l'impossible et qu'elle ne changerait pas l'homme. Les chrétiens aussi ont rêvé de l'impossible, et ils n'ont pas changé l'homme. De l'époque de Périclès à celle de M. Falière, où est-il le progrès moral? Mais toute foi est belle. Et quand pâlissent celles dont le cycle est révolu, il faut saluer les nouvelles qui s'allument. Il n'y en aura jamais trop. Olivier regardait avec une curiosité attendrie la lueur incertaine qui brûlait dans le cerveau de l'enfant. Quelle étrange caboche! Olivier ne parvenait pas à suivre le mouvement de cette pensée, incapable d'un effort de raison continu, qui allait par saccades et, quand on lui parlait, restait loin derrière vous, arrêté, agrippé à une vision surgie, on ne savait comment, d'un mot dit tout à l'heure, puis soudain vous rejoignait, vous dépassait d'un saut, faisant jaillir d'une pensée de tout repos, d'une prudente parole bourgeoise, tout un monde enchanté, un credo héroïque et dément. Cette âme, qui somnolait avec des réveils bondissants, avait un besoin puéril et puissant d'optimisme. À tout ce qu'on lui disait, art ou science, elle ajoutait une fin de mélodrame complaisant qui répondait aux vœux de ses chimères. Olivier fit, par curiosité, quelques lectures au petit, le dimanche. Il croyait l'intéresser avec des récits réalistes et familiers. Il lui lut les souvenirs d'enfance de Tolstoï. Le petit n'en était pas frappé. Il disait « Ben oui, on sait ça ». Et il ne comprenait pas qu'on se donnât tant de mal pour écrire des choses réelles. « Un gosse, c'est un gosse », disait-il dédaigneusement. Il n'était pas plus sensible à l'intérêt de l'histoire, et la science l'ennuyait. Elle était pour lui une préface fastidieuse à un conte de fées. Les forces invisibles, mises au service de l'homme, telles des génies terribles et terrassés. À quoi bon tant d'explications? Quand on a trouvé quelque chose, on n'a pas besoin de dire comment on l'a trouvé, mais ce qu'on a trouvé. L'analyse des pensées est du luxe bourgeois. Ce qu'il faut aux âmes du peuple, c'est la synthèse, des idées toutes faites, tant bien que mal, et plutôt mal que bien, mais qui mènent à l'action, des réalités grosses de vie et chargées d'électricité. De la littérature qu'Emmanuel connaissait, ce qui le toucha le plus, ce fut le pathos épique de Victor Hugo et la rhétorique fuligineuse de ses orateurs révolutionnaires qu'il ne comprenait pas bien et qui, non plus que Hugo, ne se comprenaient pas toujours eux-mêmes. Le monde était pour lui, comme pour eux, non pas un assemblage cohérent de raisons ou de faits, mais un espace infini, noyé d'ombre et tremblant de lumière, où passaient dans la nuit de grands coups d'ailes ensoleillés. Olivier essayait en vain de lui communiquer sa logique bourgeoise. L'âme rebelle et ennuyée lui échappait des mains, et elle se complaisait dans le vague et le heurt de ses sensations hallucinées, comme une femme en amour qui se livre les yeux fermés. Olivier était à la fois attiré et déconcerté par ce qu'il sentait chez l'enfant de si proche de lui. Solitude, faiblesse orgueilleuse, ardeur idéaliste, et de si différent, ce déséquilibre, ces désirs aveugles et effrénés, cette sauvagerie sensuelle qui n'avait aucune idée du bien et du mal, telle que les définit la morale ordinaire. Il ne faisait qu'entrevoir une partie de cette sauvagerie. Jamais il ne se douta du monde de passions troubles qui grondaient dans le cœur de son petit ami. Notre atavisme bourgeois nous a trop assagi. Nous n'osons même pas regarder en nous. Si nous disions le centième des rêves que fait un honnête homme, ou les étranges ardeurs qui passent dans le corps d'une femme chaste, on crierait au scandale. Silence aux monstres, fermons la grille. Mais sachons qu'ils existent, et que dans les âmes neuves, ils sont prêts à sortir. Le petit avait tous les désirs érotiques que l'on regarde comme pervers. Il l'étreignait à l'improviste par rafale. Ils étaient exaspérés par sa laideur qui l'isolait. Olivier n'en savait rien. Devant lui, Emmanuel avait honte. Il subissait la contagion de cette paix. L'exemple d'une telle vie lui était un dompteur. L'enfant ressentait pour Olivier un amour violent. Ses passions comprimées se ruaient en rêves tumultueux. Bonheur humain, fraternité sociale, miracle de la science, aviation fantastique, poésie enfantine et barbare, tout un monde héroïque d'exploits, de niaiseries, de luxures, de sacrifices, où sa volonté ivre cahotait dans la flânerie et dans la fièvre. Il n'avait pas beaucoup de temps pour s'y abandonner, dans l'échoppe du grand-père, qui ne restait pas un instant silencieux, tapant, jabotant du matin au soir. Mais il y a toujours place pour le rêve. Que de journées de songe on peut faire, debout, les yeux ouverts, en une seconde de vie. Le travail de l'ouvrier s'accommode assez bien d'une pensée intermittente. Son esprit aurait peine à suivre, sans un effort de volonté, une chaîne un peu longue des raisonnements serrés. S'il parvient à le faire, il y manque ça et là quelques mailles. Mais dans les intervalles des mouvements rythmés, les idées s'intercalent, les images surgissent. Les gestes réguliers du corps les font jaillir comme le soufflet de forge. Pensée du peuple, gerbe de feu et de fumée, pluie d'étincelles qui s'éteignent, se rallument et s'éteignent. Mais parfois l'une d'elles, emportée par le vent, va mettre l'incendie aux riches meules bourgeoises. Olivier réussit à faire entrer Emmanuel dans une imprimerie. C'était le vœu de l'enfant, et le grand-père ne s'y opposa point. Il voyait volontiers son petit-fils plus instruit que lui, et il avait du respect pour l'encre d'imprimerie. Dans le nouveau métier, le travail était plus fatigant que dans l'ancien. Mais parmi la foule des travailleurs, le petit se sentait plus libre de penser que dans l'échoppe, seul à côté du grand-père. Le meilleur moment était à l'heure du déjeuner. Loin du flot des ouvriers qui envahissaient les petites tables sur le trottoir et les débits de vin du quartier, il s'échappait en clopinant vers le square voisin. Et là, à cheval sur un banc, sous le dais d'un marronnier, près d'un faune de bronze qui dansait, une grappe à la main, il déballait son pain et le morceau de charcuterie enveloppé dans un papier gras. Et il le savourait lentement au milieu d'un cercle de moineaux. Sur la pelouse verte, de petits jets d'eau faisaient tomber leur fine pluie en réseaux grésillants. Dans un arbre ensoleillé, des pigeons bleus d'ardoise, à l'œil rond, roucoulaient. Et tout autour, c'était le ronflement perpétuel de Paris, le grondement des voitures, la mer bruissante des pas, les cris familiers de la rue, le lointain flûteau rayeur d'un raccommodeur de faïence, un marteau de terrassier tintant sur les pavés, la noble musique d'une fontaine, enveloppe fiévreuse et dorée du rêve parisien. Et le petit bossu, à cheval sur son banc, la bouche pleine, ne se pressant pas d'avaler, s'alanguissait dans une torpeur où il ne sentait plus son échine douloureuse et son âme chétive. Il était baigné d'un bonheur imprécis et grisant. Tiède lumière, soleil de la justice qui luira demain pour nous, déjà ne lui tue pas. Tout est si bon, si beau. On est riche, on est fort, on se porte bien, on aime. J'aime, j'aime tous et tous même. Ah, qu'on est bien, qu'on sera bien demain. Les sirènes d'usine sifflaient. L'enfant s'éveillait, avalait sa bouchée, buvait d'une longue gorgée à la Wallace voisine, et rentré dans sa carapace bossue, il allait, de sa démarche sautillante et boiteuse, reprendre sa place à l'imprimerie, devant les casiers aux lettres magiques, qui écriraient un jour le Manet Tekel Fares de la Révolution.